Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui dans Au fil des pages, nous parlons d'un petit livre, mais d'une grande histoire, celle du catholicisme. Un petit livre parce qu'il est publié dans la collection Que sais-je, que tout le monde connaît, par les éditions PUF, publié et surtout rédigé par Yves Brulé. Yves Brulé qui est agrégé d'histoire, qui est chargé de mission à l'Académie des sciences morales et politiques et qui vient de publier ce petit ouvrage « Histoire du catholicisme » qui est un résumé sans doute difficile à faire. Yves Brulé, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre au micro de Canal Académie à tout ce que nous allons vous demander sur le catholicisme et l'Église catholique. Quelle a été votre principale difficulté pour synthétiser deux millénaires en 127 pages ?
La première difficulté, c'était de succéder à un grand historien qui était Jean-Baptiste Durosel. Parce que le Que sais-je, en fait, existait depuis longtemps. Le titre « Histoire du catholicisme » a été l'un des premiers Que sais-je, puisque Jean-Baptiste Durosel, qui avait alors une trentaine d'années, avait eu cette charge d'écrire ce Que sais-je à la fin des années 40, en 49. Et donc, il avait été mis à jour plus tard par Jean-Marie Mayer, professeur à la Sorbonne, mais les éditions donc, des presses universitaires de France avaient considéré que l'histoire du catholicisme, l'historiographie de l'histoire de l'Église avait suffisamment évolué pour nécessiter une refonte de ce titre. Alors, j'ai été sollicité et j'ai accepté cette charge très difficile, un peu avec inconscience, je crois. Et donc, la difficulté, c'était de ne pas faire un récit de plus de 20 siècles d'histoire, parce qu'en 127 pages, comme vous l'avez dit, on peut raconter quelques petites choses. Mais j'ai cherché plutôt à problématiser, à chercher des grandes lignes, des grands thèmes qui réapparaissent dans les grandes périodes de l'histoire du catholicisme, pour chercher des thèmes comme cela qu'on peut suivre de siècle en siècle et de millénaire en millénaire.
C'est en effet l'une des qualités de votre ouvrage que de nous permettre de nous repérer dans les courants du catholicisme, parce qu'il y a une unité doctrinale, il y a une unité religieuse, mais enfin, il y a tout de même des courants selon les siècles. On penche plutôt d'un côté ou plutôt que l'autre. Et d'ailleurs, notre siècle à nous, le 20e et le début du 21e, n'est pas absent de ces courants. On va certainement y revenir. Vous avez donc divisé votre ouvrage tout simplement en grandes périodes historiques, donc la période de la fondation et de la romanité, puis la période, disons, de la chrétienté qui s'installe en Occident avec les grands ordres monastiques, puis cette chrétienté qui a besoin tout d'un coup d'une réforme, en tout cas l'Église, c'est la réforme grégorienne, pour aboutir aux réformes que vous utilisez en effet au pluriel, comme j'ai l'ai remarqué Pierre Chaunu, je crois, et Lucien Febvre, jusqu'à la période des Lumières, et enfin ce que l'on appelle au XIXe siècle le retour de la chrétienté, et bien sûr Vatican II. Personnellement, vous êtes agrégé d'histoire. Est-ce que votre thèse d'histoire a porté sur l'une de ces périodes ?
Je suis spécialiste du XIXe siècle et j'ai eu la chance d'enseigner pendant 8 années l'histoire de l'Europe depuis la Révolution jusqu'à la fin du XIXe siècle à l'Université Paris IV auprès de M. Jean Tullard, dont j'ai été l'assistant.
Ah, mais c'est Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques que nous avons reçu de nombreuses fois sur cette radio. Donc nous comprenons maintenant les liens qui vous unissent à lui. Alors, on ne va peut-être pas faire le retour de l'histoire, mais parlons aussi de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le catholicisme, il a été confronté à beaucoup de courants, je le disais, le courant moderniste, le courant libéraliste, les totalitarismes. Comment a-t-il navigué dans tout cela ? Comment s'en est-il sorti ? Est-ce qu'il a réussi à préserver son unité dans tous ces courants ? À votre avis ?
Nous faisons la constatation que l'Église catholique existe encore avec une certaine unité à l'intérieur de cette structure et qu'elle a survécu au fond à 20 siècles d'histoire pour le moins mouvementée et qu'au fond l'Église catholique a vu tout naître et tout mourir, mais elle existe encore. Alors, pour l'époque récente, comment a-t-elle navigué dans les vicissitudes, notamment du 20e siècle ? Eh bien, peut-être comme elle l'a fait dans les siècles passés, c'est-à-dire en s'interrogeant sur son identité et en essayant de conserver ce qui fait son identité propre. Et c'est ce que j'ai essayé de chercher dans les différentes étapes de son histoire. Il y a plusieurs points qui réapparaissent sans cesse dans l'histoire du catholicisme. L'idée d'une unité d'un magistère, de l'enseignement, avec une référence centrale qui est la papauté. L'idée d'une unité dans l'espace, c'est-à-dire que, au fond, l'Église est appelée à se répandre, donc il y a un effort missionnaire constant. Et l'idée d'une unité dans le temps, et donc de transmettre non pas les choses absolument figées, mais de s'inscrire dans une tradition, c'est-à-dire une transmission d'un contenu. Et au fond, ces trois unités font en quelque sorte une identité catholique.
Mais elle s'inscrit dans une tradition avec en permanence ce souci d'évolution, d'adaptation, ou est-ce que l'Église catholique était au contraire très figée autrefois? Elle a eu des périodes où elle était très figée et d'autres où elle s'est plus interrogée, elle s'est adaptée. Adaptée, peut-être pas le mot juste d'ailleurs.
Adaptée dans sa manière de s'exprimer et d'être dans le monde, sans doute, mais pas adaptée le contenu de la foi. Mmh. Et même dans les époques où on peut penser que la doctrine est la plus figée, où il y a une attention la plus stricte à ne pas atteindre, par exemple à l'époque de la réforme catholique après les protestantismes, de défendre le contenu de l'identité doctrinale du catholicisme, il y a quand même toujours un effort de renouvellement dans la pastorale,
dans
le rapport à la culture du temps, dans le rapport aux formes politiques de l'époque. Et donc au fond, au-delà de ces trois unités que l'on retrouve un peu dans tous les siècles du catholicisme, il y a aussi, et ce sont les autres thèmes que j'ai essayé de traiter pour chacune des différentes périodes, cet effort d'une vision globale du monde, mais qui dépend aussi du monde dans lequel l'Église se trouve. Évidemment, quand on découvre l'Amérique, cela change fondamentalement la vision qu'on peut avoir du monde, hein, puisqu'on se dit, finalement, la majorité des hommes vivent dans un monde dont on n'avait absolument aucune idée quelques dizaines d'années ou quelques années avant. Donc ça change la vision du monde. Mais l'Église adapte sa manière de se comporter, la pastorale, la mission. Mais elle essaie, au fond, de conserver un certain nombre de points essentiels qui forment son identité, encore une fois.
L'Église des premiers siècles, et nous évoquons cette question avec Yves Brûlé, grâce à son ouvrage qui vient de sortir, L'histoire du catholicisme, paru au PUF. Yves Brûlé, l'Église, elle a été dès le début confrontée à des hérésies, et donc elle a dû tout de même sans cesse revérifier ses dogmes, réaffirmer ses dogmes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore confrontée à des hérésies?
Alors, hérésie, le mot est aujourd'hui assez peu employé.
Oui, il est peu employé, oui.
Il est peu employé.
Alors qu'il a tout de même agité la chrétienté, pas seulement l'Église catholique, mais la chrétienté pendant de nombreuses années.
Absolument, mais cela n'empêche qu'il y a tout de même une volonté de maintenir une unité de doctrine. On peut penser que si un évêque se met à développer une théorie radicalement opposée aux éléments essentiels du dogme catholique, il y aura de la part de la papauté une réaction.
On l'a vu d'ailleurs dans quelques affaires avec quelques théologiens.
Par exemple, la théologie de la libération, par exemple, dans les années 70-80, oui. Pour certaines tendances aussi marxisantes dans le catholicisme, mais aussi dans l'autre côté, d'ailleurs, la rupture avec les intégristes, les traditionnalistes, lefévristes, par exemple, indique bien que le pape dit, au fond, il y a la ligne qui a été celle du Concile Vatican II, et ceux qui la refusent ne peuvent pas être considérés comme tout à fait comme pleinement dans l'Église. Mais c'est vrai que le mot hérésie n'est plus guère employé.
On l'utilise plus, pas en ce moment, en tout cas.
Voilà. Alors peut-être que, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais il y a sans doute aujourd'hui encore une grande diversité de tendances dans l'Église catholique elle-même, avec des interprétations différentes de ce que l'Église de Vatican II doit devenir dans les prochaines années.
Oui, mais qui ne touche pas le fond du dogme. Néanmoins, les dogmes, il y en a des récents qui sont prononcés, par exemple le dogme de l'infaillibilité pontificale, je crois qu'il est assez récent. Donc tout de même, l'Église modifie légèrement le contenu doctrinal dont vous parlez, dont vous dites qu'il a une espèce d'unité sur les deux millénaires.
Alors il y a un développement du dogme.
Un développement, mais pas une remise en question.
On ne remet pas en question un dogme qui a été
précédent.
Admis. Le dogme, c'est vraiment le niveau le plus élevé, oui. Si on veut, dans la hiérarchie des croyances. C'est un point considéré comme fondamental. Et effectivement, au XIXe siècle, deux dogmes ont été proclamé, l'Immaculée Conception en 1854 et l'infaillibilité pontificale en 1870. Mais à chaque fois, il ne faut pas s'imaginer que c'est le pape qui décide brusquement de proclamer quelque chose. Quand on regarde de près les procédures, l'Immaculée Conception ou l'infaillibilité pontificale ont existé pendant des siècles, se sont développées, ont été approfondies.
N'avaient pas été formulées.
Et ils ont été donc fixés en quelque sorte sous forme de dogme, mais après une tradition qui est souvent très très ancienne. Pour l'Immaculée Conception, par exemple, c'est une croyance qui remonte au milieu du Moyen-Âge, au moins.
Le catholicisme aujourd'hui, qui est minoritaire dans les régions où il est né, vous le signalez dans votre ouvrage « L'histoire du catholicisme » paru au PUF, chez Pour que sais-je. Ce catholicisme, n'est pas non plus guère majoritaire dans les autres parties du monde. Néanmoins, il est devenu planétaire, si on peut dire. Il s'est étendu presque partout. Je crois qu'il y a encore quand même des régions où il n'est pas. Quel est le grand danger pour lui? Et n'y a-t-il pas un danger d'éclatement, de dispersion de...
Bon, je pense qu'il y a des dangers divers selon qu'on se trouve en Europe, en Afrique ou en Asie. Il est possible que dans le contexte de la culture actuelle, que ce soit dans les différentes parties du monde, je pense que le problème peut être un peu le même, c'est sans doute l'éclatement des croyances. Mais l'historien n'est pas non plus prophète, hein. Mais peut-être que le danger d'un éclatement des croyances, une sorte de religion à la carte, est sans doute un des dangers.
Les grands dangers. Et le fait de relativiser tout et de dire que finalement rien n'a de valeur supérieure à rien et que toutes les valeurs se valent, donc plus rien ne vaut rien. C'est peut-être ça qui est aussi un danger.
Alors c'est un danger. Bon, je crois qu'il y a dans l'Église des tendances qui ne sont pas aussi menacées par un tel relativisme, mais les populations catholiques, on a beaucoup de mal maintenant à les définir même. Qu'est-ce qu'un catholique? Quel degré de pratique faut-il pour être considéré comme tout à fait catholique? Donc là, je crois qu'il y a une grande diversité de situations, et même d'un pays d'Europe à un autre, on a là de beaucoup de variétés.
D'où la difficulté en plus pour vous de rédiger cet ouvrage dont je vais rappeler alors le titre « Histoire du catholicisme ». C'est un que sais-je, 127 pages qui nous font et qui nous offre une synthèse tout à fait remarquable de ces deux millénaires catholiques qui passent donc de l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à nos jours et le monde chrétien médiéval, la naissance de la modernité et cette fameuse laïcité. Encore un tout petit mot pour nous dire que vous consacrez toutes vos journées à cette loi de 1905.
Oui, nous pouvons dire effectivement que le Premier ministre a confié à l'Académie des sciences morales et politiques la charge d'organiser la commémoration officielle de la loi de 1905, donc le pilier de la laïcité à la française, et que donc je suis chargé de mission auprès de cette Académie pour organiser ces manifestations, ces colloques, dans laquelle on verra que l'histoire peut servir à quelque chose pour la politique et puis pour la construction de l'avenir.
Yves Brulé, merci. Nous participerons ou nous assisterons à ces commémorations en vous remerciant de les avoir organisées. Merci d'être venu sur Canal Académie dans Au fil des pages et à bientôt sans doute.